Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal grâce à Mzati.
Au sommaire de ce journal, des nouveaux affrontements sont signalés ce lundi dans la région de Tongo et Kabizo, dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu, entre les rebelles du M23 et les Wazalendo du CMCFDP. Des sources locales rapportent que les rebelles ont repris la localité de Kabizo qu'ils avaient abandonnée depuis environ 6 mois. Après plus d'une année de fermeture, le port d'Ilebo dans la province du Kasaï est réouvert. Le premier train est arrivé la semaine dernière. Cette fermeture était due au déraillement répété sur la voie ferrée et l'incendie qui avait endommagé les installations portuaires. Notre invité est le médecin en chef des zones de santé de Pinga, au nord Kivu. Le docteur Placide Ngango Kabuya s'inquiète de la situation sanitaire dans sa zone de santé, dépourvue d'équipements et enclavée à la suite de l'insécurité et au mauvais état de la route. Bonjour à tous. Nord Kivu pour commencer. Des combats ont repris ce lundi très tôt dans la région de Tongo et Kabizo, chefferie de Buite au territoire de Rutshuru. Ces affrontements opposent depuis tout le week-end les rebelles du M23 au Wazalendo du CMCFDP dans les localités de Lube Sud, Businene, Kabizo et Mutanga. Alors que ce week-end, certaines sources ont affirmé que les Wazalendo avaient réussi à repousser les rebelles. Ce matin, un notable du coin affirme que les rebelles du M23 ont repris la localité de Kabizo, une agglomération importante, n'est-ce pas, Gloria Lutula?
D'après plusieurs sources locales, des violents combats ont repris ce matin dans la zone au cours desquels les rebelles du M23 ont repris la localité de Kabizo qu'ils avaient abandonnée depuis au moins 5 à 6 mois. Une partie de la population a fui pour se mettre à l'abri et une autre est restée dans les maisons, nous renseignent les sources locales. Ces environs ont occasionné des morts dans les deux rondes ce week-end, ajoutent nos sources. Notez que ces deux forces se partagent les localités dans cette région de Rutshuru, indiquent nos sources. C'est notamment dans le groupement de Mutanda où les rebelles occuperaient l'agglomération de Nororoba. Cependant, les Wazalendo occuperaient, quant à eux, tout le groupement de Bambo dans son entièreté, d'après notre source. En outre, les rebelles du M23 occuperaient environ 20% du groupement de Tongo, y compris l'axe principal Kanaba-Mulimbi, qui leur sert de passage pour le transport des renforts et du matériel entre Tongo et Kichanga dans la région de Bishusha. Par ailleurs, d'autres affrontements ont été rapportés dans le Masisi, dans la région de Boabo, sans plus de précision pour l'instant.
Pendant ce temps, en Ituri, les FARDC ont intensifié les opérations de traque des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP, de Thomas Lubanga, très actif vers Nyamamba, à la plaine du lac Albert. Nous sommes dans les territoires des Djougou. L'armée dit avoir lancé dimanche des bombes vers les positions de ces groupes armés en réponse à une attaque de cette milice dans la région. Le porte-parole des FARDC en Ituri affirme que certains miliciens ont été neutralisés et plusieurs armes et munitions récupérées. Selon la société civile locale, une psychose s'observe dans les différents cas des pêches où la menace de cette milice est permanente. Radio Kapibounia, Isaac Remo.
L'insécurité monte d'un cran dans les localités Lakisra, notamment Nyamamba, Café et Datoulé, où des attaques sporadiques et fréquentes de la milice CRP sont signalées depuis environ un mois. Hier, ces assaillants ont attaqué une position des FARDC à Nyamamba. Ces militaires, appuyés par des hélicoptères de combat, ont riposté à l'argat des bombes sur des positions de cette milice. L'armée affirme avoir infligé de lourdes pertes à l'ennemi. Le lieutenant Gilles Ngongo précise que plusieurs milices ont été neutralisées, un lot d'armes et munitions récupérées sans en déterminer le nombre. Il ajoute que ces opérations se poursuivent pour démanteler ces groupes armés dont les hommes sont à débandade. Des détonations d'armes lourdes ont été attendues dimanche dans la soirée par la population au centre commercial de Chomia à environ 60 km à l'est de Bunia. De nombreux habitants retournés récemment de l'Ouganda et d'autres localités congolaises vivent dans la psychose à cause de l'activisme de cette milice. Le gouvernement provincial lance un appel aux fils égarés de ces groupes armés à déposer les armes pour adhérer au processus de paix dans cette province. Bunia, Isaac Moyope, Radio Okapi.
Comme indiqué au sommaire, au Kasaï, le port d'Ilebo a repris du service avec l'arrivée du premier train la semaine dernière. Les activités sur ce point stratégique étaient aux arrêts depuis plus d'une année. C'est la suite au déraillement répété sur la voie ferrée et l'incendie qui avait endommagé les installations portuaires. Le tronçon entre Lukonga et Benaleka, remis en état, a tout de même permis au train de rouler, même si la problématique de la réhabilitation de la voie demeure, note une structure de la société civile. À Kananga, François Kadima.
Le port du Lebo est un point stratégique en amont de la rivière Kasaï. Situé au centre du pays et géré par la SNCC, le port du Lebo facilite la liaison ferroviaire pour le transport de marchandises vers plusieurs régions. Il relie Kinshasa à Lubumbashi par voie fluviale et ferroviaire, facilitant ainsi l'acheminement de marchandises vers les centres et le sud du pays. La voie ferrée avait été affectée par l'érosion au niveau de Benaleka, stoppant ainsi le trafic en dehors de l'incendie qui avait touché les installations de la SNCC à Lebo. Après les travaux effectués, les activités ont repris à la satisfaction de tous. Mais le problème de la réhabilitation de la voie ferrée en état de délabrement demeure, souligne Hubert Ngoulandjoko de l'OCDH.
Ce port représente un caractère économique de grande envergure au Kasaï et au pays. L'OCDH déplore cependant l'état de délabrement avancé de la voie ferrée, tronçon Kananga-Ilebo. Demande à ce que les autorités puissent s'investir pour la réhabilitation de cette voie ferrée pour permettre un trafic sans une.
Signalons que le port d'Ilebo est parmi les principaux ports du pays comme celui de Kisangani, Kindu, Mbandaka, Kinshasa et d'autres. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Jean Bamanissa Saidi, promoteur d'Expo Béton, publie une tribune sur Kinshasa, capitale des travaux éternels. On refait donc en avance, s'interroge Bamanissa sur la problématique du délabrement de la voirie avec des embouteillages à Kinshasa et ses causes dont le manque de transparence dans la passation des marchés publics. Selon cet ancien gouverneur des provinces, dans la capitale congolaise, on ne résout pas les problèmes, on les réactive. Jeff Ngoy.
Prenez une route, écrit cet homme d'affaires et politique, elle est défoncée. C'est normal, elle a été inaugurée il y a 6 mois. On l'a posée 5 caniveaux sur des nappes phréatiques avec un bitume aussi épais qu'un serment politique. Puis sont venues les pluies, les embouteillages, les camions surchargés et surtout l'oubli de toute logique urbanistique. Avec une chaîne de sous-traitance bien huilée, où chaque trou est un contrat, chaque coulée de béton est un budget, chaque effondrement un nouveau plan d'urgence. Rien à résoudre à Kinshasa si ce n'est qu'injecter des milliards dans l'asphalte, comme un malade chronique dans des calmants, en évitant soigneusement l'examen clinique. Les causes profondes sont entre autres l'urbanisation sauvage, l'absence de drainage, la corruption systémique et une administration qui confond gestion avec improvisation. Une ville qui transforme ses problèmes en budget, ses fissures en opportunités et ses chantiers en casse-misère. À ce rythme-là, dit-il, la capitale n'a pas besoin de nouveaux projets. Elle a besoin de mémoire, de rigueur ou d'un fou rire général.
Cette autre nouvelle en bref, au nord Kivu, la terre a tremblé dans la soirée de dimanche. Un séisme de magnitude moyenne, 4,5 sur l'échelle des Richter et une profondeur de 10 km, a été perçu par les habitants de la quasi-totalité de la ville de Goma. L'épicentre est localisé juste à la frontière entre l'Ouganda et la province du nord Kivu. Ce séisme a été plus ressenti dans les villages de Kihihi, Katanda et dans le territoire de Rutshuru. Les secousses ont simultanément été ressenties dans les régions de Sake, dans le territoire de Masisi, voire dans le Grand Nord, notamment à Beni et Butembo, rapportent des témoins. Pas de dégâts humains ou matériels enregistrés. Par ailleurs, les deux volcans Nyiragongo et Nyamulagira n'ont montré aucune réaction. Pas non plus des fractures ouvertes vers les zones habitées de Goma et Sake, renseigne nos sources. Entre-temps, au sud Kivu, les survivants de la catastrophe du 4 mai 2023 à Kalehe mènent une vie pénible 2 ans après la survenue de ce désastre qui a entraîné 5255 disparus, 583 corps retrouvés et enterrés à Bushushu et Nyamukubi. Les rescapés nécessitent aujourd'hui plus que jamais une assistance en abri étant donné que toute leur maison avait été rasée. Rachel Kessimbango nous en dit plus.
Les sites aménagés immédiatement après la catastrophe n'ont pas pu contenir toutes les familles victimes. La Croix-Rouge et la Fondation Denise Nyakeru avaient apprêté 2 sites respectivement à Mouchonezo et Loako. Quelques familles y ont été relocalisées, mais plusieurs autres sont restées autour de Bushushu et Nyamukubi. Un autre groupe est allé s'installer dans une concession privée à Katashola. Le gouvernement provincial et national ainsi que les organisations humanitaires s'y sont mobilisés pour la circonstance, mais les dégâts étaient si énormes à tel point que les besoins demeurent encore entiers 2 ans plus tard. Les sinistrés nécessitent des abris, des installations sanitaires, l'eau et un accompagnement en agriculture, pêche et élevage, car ce sont là les principales activités exercées dans ces milieux dans les territoires de Kalehe. Certaines familles ont disparu totalement suite aux précipitations provoquées par les pluies diluviennes du 4 mai 2023. Les rivières avaient dévié leur lit naturel querelles et se sont déversées dans des villages, emportant des maisons, du bétail et des produits champêtres jusqu'au lac.
Merci à vous Rachel Kessi. Le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga sensibilise les policiers sur le choléra. C'était au cours de la parade qu'il a organisée ce lundi à Lubumbashi. Le commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba Okito rappelle aux policiers que les camps où ils habitent doivent être assainis pour éviter cette maladie des mains sales. Il a en outre fustigé le comportement de certains policiers de circulation routière qui usent de la brutalité lors d'une interpellation d'un usager de la route. À Lubumbashi, une correspondance de Paul Munanga.
Au cours de cette parade qui s'est tenue au camp est de la police dans la commune Kampemba, le commissaire divisionnaire de la police Dieudonné Okito Ondimba attire l'attention des policiers sur l'hygiène corporelle et environnementale, surtout en cette période où il y a flambé du choléra dans la ville de Lubumbashi.
Je parlais de l'hygiène comme nous habitons les camps, donc les camps doivent être propres, les camps doivent être assainis pour éviter le choléra.
Par ailleurs, le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga rappelle aux policiers de circulation routière les techniques d'interpellation d'un conducteur.
Nous avons des techniques d'arrestation, d'interpellation. Il faut savoir comment interpeller l'usager de la route. Parce qu'il y a d'autres policiers qui ne savent pas comment interpeller une personne. Ils le font par brutalité. C'est ça que j'ai insisté. Il faut que les policiers sachent comment interpeller la personne.
Le numéro 1 de la police dans le Haut-Katanga a aussi rappelé aux policiers les missions qui leur sont dévolues. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et au Kassai Oriental, la campagne de réparation gratuite des fentes labiaux palatines se poursuit normalement à la clinique universitaire de l'université officielle de Mbujimayi. Plus de 40 personnes, dont plusieurs enfants venus des territoires du Kassai Oriental et de la province de Lomami, ont été opérés avec succès depuis jeudi dernier à ces jours. Cette campagne est organisée par l'université officielle de Mbujimayi en collaboration avec l'ONG canadienne Smiltren. Des explications avec Esther Dalafina.
La fente labiopalatine, autrefois appelée bec de lièvre, est une malformation du visage depuis la naissance et qui consiste en une ouverture d'un seul côté de la lèvre, les deux côtés ou au centre. D'après Dr Luc Malemo de l'ONG HELP, plus de 40 personnes, dont les enfants, ont subi la chirurgie pour la réparation gratuite des fentes labiopalatines à la clinique universitaire. Dr Luc Malemo affirme que la réparation gratuite devient une activité régulière au niveau de la province du Kassai Oriental.
Nous voulons que les malades viennent, qu'on les soigne régulièrement. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nous avons aussi formé les chirurgiens ici. Les malades qui viendront après mon départ ne seront pas dessus. L'équipe locale est là pour les prendre en charge.
Les malades sont totalement pris en charge. Ils reçoivent un kit alimentaire. Leur transport aller-retour est également assuré par l'ONG canadienne. Mukuna Matungu, le père d'un enfant d'une année et sept mois, salue ce geste de générosité.
On a arrangé mon enfant gratuitement. Nous remercions les venants de Canada et les responsables de ce lieu. Je suis content.
Signalons que près de 20 personnes attendent encore la réparation de leur fente labiopalatine au cours de cette campagne de réparation gratuite qui prend fin ce mardi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Tous les 133 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans et qui doivent élire le nouveau pape lors du conclave débutant mercredi sont arrivés à Rome, a indiqué ce lundi le Vatican. Ils se réuniront dans la chapelle Sixtine à partir de 14h30 temps universel mercredi et continueront à voter dans le secret jusqu'à ce que l'un d'entre eux obtienne une majorité de 2/3 et devienne le chef des 1,4 milliards des catholiques du monde. Et puis, au lendemain de l'investiture à la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef du gouvernement gabonais, Raymond Ndong Sima, a remis la démission de son équipe au chef de l'État, lui exprimant à cette occasion ses vœux chaleureux et des réussites pour le septennat qu'il commence. Tout juste intronisé à la tête de la nouvelle 5e République, le nouveau président doit lui procéder rapidement à une salve des nominations.
L'invité.
La population de Pinga, dans les territoires de Walikale au nord, qui vaut estimé à plus de 220 000 habitants, est exposée à des épidémies. C'est en tout cas la crainte du médecin-chef des zones de Pinga face à la situation sanitaire préoccupante dans sa zone de santé, dépourvue d'équipements et coupée de tout approvisionnement en médicaments. C'est à cause de l'insécurité et de l'inaccessibilité due au mauvais état de la route. Docteur Placide Ngango Kubuya s'entretient avec Denise Lukeso.
Docteur Placide Ngango, bonjour.
Oui, bonjour madame la journaliste.
Quelle est la situation sanitaire dans votre zone de santé actuellement?
La situation sanitaire est tellement compliquée à la suite des avancées du M23 dans la zone de Pinga, ce qui a entraîné vraiment des déplacements de la population, ce qui a causé des problèmes du point de vue sanitaire. Donc, pour le moment, il y a carence en médicaments au niveau de Pinga Centre et même dans la périphérie.
Et quels sont les défis auxquels les fait face les personnels soignants là-bas?
Oui, surtout au niveau de Pinga Centre, il y a vraiment une carence en médicaments. Donc, les personnels soignants sont butés à ces obstacles parce qu'il y a des malades qui arrivent dans les structures sanitaires, mais il manque les médicaments.
Quelles sont les pathologies fréquentes que vous enregistrez?
Pinga, c'est une zone endémique. Donc, la pathologie la plus courante au niveau de Pinga, c'est le paludisme qui vient en premier lieu. Il y a les infections respiratoires. Il y a aussi la diarrhée. Et ces derniers temps, comme il y a déplacement de la population, on observe aussi beaucoup de cas de rougeole dans la zone de santé, particulièrement dans l'axe Pinga qui regorge 13 aires de santé.
Pinga est une zone très enclavée. Comment se fait l'approvisionnement en médicaments, par exemple?
Actuellement, ça pose un sérieux problème parce que normalement, pour arriver à Pinga, on doit passer par des axes en provenance de Goma. Soit on passe par Mueso, via Mpeti, et vous arrivez à Pinga. Là, la route est totalement bloquée. Il n'y a pas la possibilité d'accéder à Pinga. L'unique voie d'accès, il faut passer par Nyabiondo et Masisi. Un état de délabrement de cette route, mais aussi il y a l'insécurité dans la route aux notes de pillage, et ce qui empêche même les partenaires à venir nous aider dans la zone de santé de Pinga liée à la situation sécuritaire et même à l'enclavement.
Et qu'en est-il de l'appui des humanitaires? Arrive-t-il à couvrir les besoins?
La zone de santé n'a pas vraiment de partenaire. Donc l'unique partenaire actuellement qui est au niveau de l'axe Pinga Centre, qu'on note seulement la présence de MEDER dans des aires de santé, précisément à Bukonde, mais aussi en Mpeti, là où l'aire de santé a été déplacée suite au mouvement de la population vers Misoke. Ce sont là les deux aires de santé qui sont appuyées. Malheureusement, ça fait plus de 4 mois que les partenaires ne parviennent même pas à atteindre Pinga suite à l'insécurité et même l'approvisionnement. Ça fait au moins plus de 4 mois que les partenaires n'approvisionnent pas les deux structures suite aussi à l'insécurité dans cette région et même en cours de route.
Et face à ces défis, qu'est-ce que vous craignez?
Bon, ce qu'on est en train de craindre, notamment la survenue des épidémies, parce qu'actuellement, il y a déjà la rougeole qui est en train de s'installer dans la zone. Et comme il n'y a pas de médicaments, cela déjà entraîne quelques décès qui sont enregistrés dans la communauté, même dans différentes structures. Au niveau de l'hôpital, il y a des décès liés à ça suite au manque de médicaments. Donc, la gestion sera vraiment très compliquée. Tout ça, c'est par manque d'équipement et par manque de médicaments. Bon, la recommandation, c'est permettre d'abord l'accessibilité. On plaide aussi pour la sécurité en cours de route. Ce sont là les défis qui font à ce que les humanitaires ne puissent même pas arriver dans la région. Aux partenaires aussi de venir aider la population en souffrance dans cette région.
Voilà, docteur Placide Ngango, je rappelle que vous êtes le médecin-chef des zones de Pinga dans le Walikale. Radio Okapi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Voilà, notre invité est interrogé par Denise Loukesson. Ainsi prend fin ce journal, coordonné par Élisée Chikota sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengo Nsoalou a assuré la mise en onde et grâce à Mzati à la présentation. Merci.